querer, tontos.
Salut à tous, bienvenue sur Bac FM 106.1 dans votre émission Metal Check Me Load. Comme chaque semaine, eh bien, nous allons faire un petit tour d'horizon des sorties métal. Alors j'en ai pas pour aujourd'hui, il y a quelques sorties mais rien de vraiment super intéressant à vous proposer. Mais du coup ça tombe bien puisque j'ai raté pas mal de choses sur les dates du 1er et du 8 mars. Donc on va revenir largement sur ces deux vendredis là où il y a eu vraiment beaucoup de choses. Et donc j'avais pas encore eu le temps de tout vous présenter jusqu'à présent. Ça va être la bonne occasion de le faire aujourd'hui. Alors pardonnez ma voix qui sonne aujourd'hui très nasal, je parle effectivement du nez, j'ai pas été épargné par les microbes, donc voilà, ça va être un petit peu compliqué de venir à bout de cette émission, mais j'y arriverai, j'ai déjà vécu bien pire que ça, et voilà, le métal, je pense que ça va être un très très bon remède pour soigner ce vilain virus. Ça tombe bien, on va commencer tout de suite par du death metal, du death grind plus précisément, avec donc une sortie du 8 mars. Et cet album, eh bien, c'est le nouveau Misery Index. Un album qui s'appelle Ritual of Power. Alors avant de vous parler un peu plus en détail du disque, je vais revenir un petit peu sur la biographie du groupe, que vous connaissez peut-être pas forcément. Alors Misery Index, c'est un groupe qui vient de Baltimore, dans le Maryland, donc aux États-Unis bien évidemment, qui a été créé en 2001, notamment par le chanteur-bassiste Jason Netherton, qui est désormais le seul membre d'origine. Et puis, quant au reste du line-up, il se compose de Mark Knopel et Darren Morris à la guitare, et puis de Adam Jarvis à la batterie. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est du death grind. Alors, pour décrire un petit peu plus précisément le son de Misery Index, on peut dire qu'il se définit par une musique death, soutenue par de fortes influence punk hardcore, grindcore, et puis en outre le groupe, qui est assez engagé socialement, aime bien à travers ses paroles dénoncer le capitalisme, la toute puissance des grosses industries et puis tous les autres maux qui pourrissent notre société. Côté discographie, Misery Index avait sorti son premier album en 2003, c'était Retaliate. Il a été suivi ensuite de Discordia en 2006, Traitors en 2008, et puis enfin les excellents, alors d'abord Heirs to Tiferi en 2010, et puis The Killing God en 2014. Deux albums qui vont propulser le groupe sur le devant de la scène grind death internationale. Et ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que le combo de Baltimore est loin d'avoir dit son dernier mot, comme en témoigne justement Ritual of Power, qui est paru il y a une semaine, tout pile. C'est un véritable concentré de brutalité, de sauvagerie. Ce sixième méfait de Misery Index nous plonge encore plus loin dans l'obscurité, et puis nous abasourdit à grands coups de tempi écrasants, d'accélérations fulgurantes, de riffs assassins, avec par-dessus, eh bien, la voix de Jason Netherton, qui donne envie de tout détruire autour de vous, avec ses 40 minutes de death metal 5 étoiles, son intensité constante et puis sa production qui est quand même assez époustouflante. Ritual of Power, c'est un chef-d'œuvre du genre. Alors, que ceux qui souffrent d'otite s'éloignent de leur radio, tout de suite, voici Misery Index avec le titre New Salem, c'est sur Bac FM.
«
simply name the streets. Nothing is safe, some press the speech. A virtual conflict in binary logic. Who the fuck is the strong man now? Did I find a good fight? Who is sick of the fighting? Which of you is just? Co-opted activists, divided and authorized. All bodies have got a rule. New Salem co-opted activists, all bodies have got a rule. New Salem co-opted activists, divided and authorized. All bodies have got a rule.
Misery Index pour se mettre en forme sur Bike FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Misery Index avec le titre New Salem, extrait du nouvel album Ritual of Power qui est disponible depuis maintenant une semaine. Donc allez-y, du Death Grind de très grande classe, ça envoie sévère, c'est très bien fait. Et c'est un groupe qui se place vraiment parmi les formations du genre à suivre de très près. Retenez bien leur nom, Misery Index, ils nous viennent de Baltimore. On quitte les États-Unis et puis on va aller vers des contrées où on va très très peu, puisqu'on va se diriger vers les îles Féroé avec le groupe, alors je sais pas si ça se prononce Tyr ou Tyr. Pour vous dire vrai, je parle pas très bien le danois, puisque les îles Féroé font partie du royaume du Danemark. D'ailleurs, je crois qu'ils ont une langue, le féroïen, me semble-t-il, puisque le groupe chante quelques chansons dans cette langue, on va y revenir. En tous les cas, le 8 mars, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Hell. Donc, Tyr, c'est un groupe qui a été fondé en 98 sur cette petite île, sur ces petites îles d'ailleurs, qu'on connaît surtout parce que c'est quand il y a des matchs de foot qu'on en entend parler à la télé, sinon on connaît pas très bien. C'est un groupe qui a été créé autour notamment du chanteur-guitariste Eric Johnson et puis du bassiste Gunnar H. Thompson. Le groupe se compose également du guitariste Attila Voros et puis du batteur Tadeusz Reichman, qui ont tous les deux rejoint le line-up assez récemment. Alors, Tyr ou Tyr, je sais pas, dont le nom fait d'ailleurs référence à un dieu de la mythologie nordique, joue à ses débuts dans un registre folk metal, plus précisément viking metal, mais au fil du temps, leur style va énormément évoluer, et aujourd'hui on pourrait qualifier leur son de folk metal mélodique, progressif et épique. Je sais, ça fait un peu long, mais il faut savoir que le groupe a jamais caché son ambition de casser les murs qui existent finalement entre les différents genres de metal. Ils ont pas envie qu'on leur colle une étiquette, et ils ont bien raison. Le groupe, il a quand même désormais 20 ans de carrière derrière lui, et jusqu'à aujourd'hui, il a sorti 8 albums. Le premier, c'était How Far So Asgard en 2002. Sinon, dans le reste de sa discographie, on trouve quelques très belles pièces, comme par exemple Valkyria, pour n'en citer qu'une, qui était jusqu'alors son dernier opus en date, qui était paru en 2013, et qui lui avait permis de tourner assez intensément aux quatre coins du globe, avec notamment une première partie sur la tournée américaine de Children of Bodom. Donc ça, c'est plutôt la classe. Mais bon, voilà, hein. Il était grand temps pour nos Vikings de démarrer une nouvelle épopée. C'est chose faite depuis vendredi dernier avec Hell, un généreux opus de plus d'une heure de musique qui est heavy, épique à souhait, dont la beauté, la richesse et la sophistication bah, font réellement rayonner ce disque. Hein. Alors, ils sont encore une fois inspirés bien évidemment de la mythologie, avec justement, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais deux des titres qui sont interprétés en féroïen. Et puis sinon, bah, y a aussi des morceaux qui parlent d'expériences personnelles, d'événements qu'on marquer la planète. Elle est probablement l'œuvre du groupe la plus singulière, la plus variée, la plus complète. Et ce qui est bien, c'est que c'est un disque qui va proposer à chaque auditeur une expérience à plusieurs facettes, bah selon le ressenti de la personne, selon sa propre interprétation. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais bon, voilà, comme il fallait quand même bien apporter un petit bémol à toutes ces éloges... Il faut savoir que la richesse des morceaux qui, pour beaucoup, sont des compositions à tiroir, fait de Hell un album qui est loin d'être direct. Et bah, faut beaucoup de patience hein, pour bien l'appréhender, pour en apprécier chaque minute. Parce que finalement, c'est quand même un très beau voyage, un voyage enchanté que nous propose Tyler. Mais faut se laisser un petit peu de temps. Voilà, en une écoute, vous aurez pas possibilité de tout avoir apprécié, de tout avoir assimilé. Et il va falloir faire un petit effort de votre côté également. On écoute un extrait de Hell avec le morceau Sunset Shore, c'est tout de suite, c'est sur Bike FM.
Yeah.
Sunset Shore du groupe Tire, un extrait du nouvel album qui s'appelle Elle sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Melod, un album paru il y a tout juste une semaine que je vous conseille. Si vous avez pas peur du métal qui sait se teinter de tout plein d'influences, là vraiment on a un petit côté progressif derrière un fond un peu folk avec du heavy, avec du métal mélodique, c'est très très beau. C'est un album très coloré, très varié et surtout qui nous vend un peu du rêve, donc c'est à découvrir absolument. On va aller faire un petit tour en Allemagne maintenant. Alors là on a déjà plus l'habitude d'en écouter des groupes allemands et on va aller retrouver un groupe phare de cette scène heavy metal, puisque c'est ça dont il s'agit, et c'est le groupe Iron Savior qui a sorti également la semaine dernière, le 8 mars, l'album Kill or Get Killed. Donc Iron Savior, c'est un groupe qui nous vient de Hambourg, qui a été formé en 96. Il a été créé sous l'impulsion du chanteur guitariste producteur Pete Silk. Alors Pete Silk, on le connaissait à ce moment-là peu en tant que musicien, mais en tant que producteur, il avait déjà collaboré avec Uriah Heep, avec Saxon, avec Blind Guardian, pour vous donner un petit éventail. Et donc Pete Silk, pour fonder ce projet qui est Iron Savior, il s'est entouré au départ du chanteur-guitariste Kai Hansen, qui est un vieil ami à lui, et qui est surtout connu pour être membre fondateur de deux groupes phares de la scène heavy metal allemande, Halloween et Gamma Ray. Et puis il s'est aussi entouré du batteur Thomas Stroke, qui lui est membre fondateur de Blind Guardian. Alors de ce trio aujourd'hui, il n'y a plus que Pete Silk, hein. Désormais c'est lui qui est l'unique commandant du navire. Et Pete Silk, eh bien depuis 96 avec Iron Savior, il nous fait du heavy metal. Alors on est entre power et speed metal si on veut pinailler un peu. Et surtout, eh bien, il a un thème bien particulier avec ce groupe. Son thème favori, c'est la science-fiction. Donc il faut savoir que la plupart de ses disques, alors c'est surtout vrai au début, mais ça l'est encore quand même beaucoup maintenant, ce sont des concept albums dont les chansons racontent principalement l'histoire d'un vaisseau spatial qui est doué de conscience. Ça vous donne un petit peu le ton. Alors depuis ses débuts, Iron Savior a quand même sorti 12 albums studio, c'est pas mal, hein, parce que le groupe est là depuis 96, donc ça veut dire qu'ils ont un rythme quand même assez soutenu. Le premier, qui s'appelait tout simplement Iron Savior, il date de 97. Et puis sinon, parmi ses œuvres les plus réussies, on peut citer Megatropolis en 2007, The Landing en 2011, The Rise of the Hero, en 2014, ou encore Titancraft en 2016, qui était donc le dernier en date. Et donc, si vous êtes fan de Iron Savior, vous pouvez être rassuré, puisque avec Killed or Get Killed, qui est paru la semaine dernière, pas de déception à l'horizon, hein, nos titans de la scène power metal allemande délivrent comme à l'accoutumée un disque qui est solide, qui est puissant, qui est blindé de moments épiques en diable. Alors, je vous préviens, hein, l'envie de scander en chœur les refrains très très fédérateurs de ces nouvelles compos, c'est assez irrésistible. Et ce Kill or Get Killed, je pense que ça va très très bien fonctionner en concert. Sinon, je vous parlais tout à l'heure de concept album, c'est encore le cas, hein, cette fois-ci. Et ils se sont inspirés pour l'écrire, enfin du moins Pete Silk, puisque c'est lui qui en est le principal compositeur. Il s'est inspiré d'un roman de science-fiction qui s'appelle L'Étoile de Pandore. Alors dans ce roman, en fait, l'humanité est menacée par la destruction par des aliens. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le ton de l'album. Si je devais vous le résumer en quelques mots, je dirais que Kill or Get Killed, c'est un album qui est réussi. C'est en fait la Deutsche Qualität, hein, tout simplement. En voici un extrait avec le morceau Stand Up and Fight. C'est tout de suite, c'est sur Back FM. Like a ghost. ça sent le pogo et le headbanging, ça, ce morceau de Iron Savior qui s'appelle Stand Up and Fight, extrait du nouvel album Kill or Get Killed qui est paru la semaine dernière. Iron Savior, du heavy metal allemand, comme nos amis d'ailleurs savent si bien le faire, c'est vraiment les champions en matière de heavy metal, je pense, hein. Et il suffit d'écouter un album d'Halloween, de Gamma Ray et tant d'autres. En tout cas, ça c'est Iron Savior, le projet de Pete Silk depuis 1996, et c'est donc à rajouter sur votre playlist si vous aimez le bon heavy. On va écouter un peu de hard rock maintenant avec deux groupes qui ont pour l'un sorti son album vendredi dernier et pour l'autre le 1er mars. On va commencer par le plus récent, c'est l'album de Buck Cherry qui s'appelle Warpaint, qui est donc sorti le 8 mars, je le disais. Qui est Buck Cherry? Eh bien, c'est un groupe qui nous vient du comté d'Orange, en Californie, et qui a été formé il y a déjà un moment, en 95. Alors, le groupe, dont le nom est en fait la contrepétrie de Chuck Berry, hein, tout simplement, il va naître de la rencontre entre le chanteur Josh Todd et le guitariste Keith Nelson, bah, grâce à leur tatoueur, tout simplement. Le groupe va tout d'abord sévir de 95 jusqu'en 2002, année où il va se séparer. Une séparation qui va être assez courte, puisque Todd et Nelson reformeront Buck Cherry en 2005. Donc on est tout simplement là sur du hard rock, y a pas à aller chercher plus loin. De toute façon, le groupe, il est né en fait de la passion de Josh Todd et de Keith Nelson pour le groupe AC/DC, et Buck Cherry va faire ses premières armes dans les clubs d'Hollywood, où son hard rock old school va recevoir un accueil des plus enthousiastes de la part du public. C'est donc fort de cette réputation scénique que le groupe va pas tarder à attirer l'attention des labels, et puis sortir en 99 un premier album éponyme qui va recevoir un accueil extrêmement positif aux États-Unis, où le disque est d'ailleurs certifié or. Pourtant, malgré ses débuts des plus prometteurs, le deuxième album du groupe qui s'appelle Time Bomb, qui arrive en 2001, est loin d'être autant acclamé, même si les fans reconnaissent quand même sa qualité en termes de composition, en termes de production, mais c'est voilà, mis à part ça, c'est un échec, et le combo va choisir de se séparer l'année suivante. Bon, on en a parlé, hein, y a eu un retour en 2006, alors depuis, en 2005, le retour... Et un nouvel album en 2006, voilà, c'est dans cet ordre-là. Un album qui s'appelle 15. Et à ce moment-là, eh bien, le succès va à nouveau sourire à Buck Cherry, qui a depuis enchaîné, alors, accrochez-vous, puisqu'il y a eu Black Butterfly en 2008, All Night Long en 2010, Confessions en 2013, Rock'n'Roll en 2015, et puis donc Warpaint la semaine dernière. Donc, une belle flopée d'albums, j'ai envie de dire, qui ont connu quand même un très beau succès aux États-Unis. Par contre, c'est un peu dommage parce que Buck Cherry a quand même un peu de mal à conquérir l'Europe, outre le Royaume-Uni où ça marche pas mal. Sinon, ils ont quand même pas une renommée exceptionnelle, et ça mériterait franchement de rameuter plus de foule parce que c'est vraiment très très bien. Alors Warpaint, c'est leur huitième album, c'est surtout le premier sans le guitariste membre fondateur Keith Nelson, puisqu'il a quitté le groupe en 2017, ce qui n'empêche pas la bande à Josh Todd de continuer à nous balancer pleine face son big rock qui est prêt à nous faire exploser les tympans à coups de riffs hargneux, de mélodies bien trouvées, et puis d'un chant qui se bonifie d'album en album. C'est un disque qui a été produit par Mike Plotnikoff, cet album Warpaint, qui, je trouve, est très spontané, très coloré, qui se veut très proche aussi de la dynamique et puis de la puissance que sait dégager Buck Cherry en live. Alors, il faut noter aussi que le disque contient une reprise des plus étonnantes de Head Like a Hole de Nine Inch Nails. Et c'est vrai que dans la version de Buck Cherry qu'on trouve sur cet album, eh bien, on redécouvre le morceau, qui est quand même assez connu, dans une version totalement étonnante. Donc, attendez-vous à l'écouter prochainement dans la rubrique Sortez Cover de cette émission. Mais pour l'instant, j'ai choisi qu'on découvre l'album avec une nouvelle compo quand même, donc extrait de cet album Warpaint. Tout de suite, on écoute Buck Cherry avec le morceau Bent.
I can't stand how I feel inside. I can't be fixing, I can't.
C'était Bent à l'instant sur Bike FM 106.1, le nouveau morceau, un des nouveaux morceaux de Buckcherry, extrait de leur album Warpaint, paru la semaine dernière. Donc du bon hard rock comme on l'aime. Et puisqu'on est dans le hard rock, on va y rester. Alors avec un groupe beaucoup plus connu à l'international, il s'agit de Backyard Babies, qui eux aussi ont sorti un album, mais le 1er mars, un album qui s'appelle Silver and Gold. Alors Backyard Babies, eux, ils viennent de Suède, de Nacio, une petite ville. Et je sais pas exactement où ça se trouve en Suède, mais en tout cas voilà, c'est une toute petite ville, hein, ça j'ai vérifié. Il existe depuis 89, hein, ce groupe Backyard Babies, donc 30 ans cette année, et c'est un combo qui a été créé par Nick Björk au chant, la guitare, par Dragan à la guitare également, par Johan Blomqvist à la basse et Peter Carlson à la batterie, un line-up qui n'a pas changé depuis la naissance du combo, et ça c'est assez exceptionnel pour le souligner. Alors avec Backyard Babies, on est sur du hard rock aux influences à la fois glam et punk. C'est un groupe qui, dès la sortie en 91 de son premier EP Something to Swallow, va susciter l'intérêt des médias, à commencer par la chaîne MTV qui va beaucoup les diffuser. Donc le groupe va partir s'installer à Stockholm, va très vite signer son premier contrat et puis sortir en 94 un premier album qui s'appelle Diesel and Power, qui va susciter à son tour un intérêt toujours grandissant de la part des médias et de l'industrie musicale. Donc ça va être le début d'une belle carrière, hein, puisqu'il va y avoir les albums Total Sortin en 98 et puis Making Enemies is Good en 2001, ce qui va faire que Backyard Babies va poursuivre son ascension et va sortir finalement l'album de la consécration avec Stockholm Syndrome, ça c'est en 2003, et sur cet album figure le fameux single Minus Celsus, qui va tourner sur les radios du monde entier, qui va devenir le morceau phare du groupe. Et d'ailleurs on va retrouver ce titre quelques années plus tard dans la playlist du jeu vidéo Guitar Hero 3, donc ça va lui donner encore plus de renommée à travers le monde. En 2008, le groupe sort un sixième album, un album éponyme, et après cela, eh bien, ils vont décider de s'accorder une longue pause qui va durer 7 ans, parce qu'on ils sont épuisés, ils ont tourné intensément pendant des années et des années, donc ils vont s'arrêter jusqu'en 2015, et là on va les retrouver avec le très réussi rock 4x4, voilà, c'est ça, je dis n'importe quoi, ça va être la fièvre, hein, qui commence à m'envahir. En tout cas, toujours est-il que cette année, Backyard Babies célèbre donc son 30e anniversaire. Pour fêter ça, il nous balance un 8e album, c'est Silver and Gold. Et c'est un album qui, avec sa production aussi nerveuse qu'organique, nous montre que le combo a rien perdu de son énergie et de sa hargne. Silver and Gold, c'est un album de hard rock redoutable, varié, mélodique, qui est vraiment à la hauteur du savoir-faire des Backyard Babies. Donc, cherchez pas de fioritures, hein. Ici on va droit à l'essentiel. On écoute un extrait du disque avec Good Morning Midnight. Voici tout de suite Backyard Babies sur Bac FM. Shadows, angels, cramps, even some blood. Or is the fluid that I feel a cold sweating flood? The hours of the day and night and weeks. And mashing up into a nightmare where pixels streak. Yes. Ça fait du bien, c'était Backyard Babies sur Back FM dans l'émission Metal Check Melod, du bon hard rock comme on l'aime, un extrait de Silver and Gold paru le 1er mars, et le titre qu'on vient d'écouter c'était Good Morning Midnight. Voilà pour les Backyard Babies, là on était dans le direct, l'énergique, la simplicité, on change d'univers pour aller vers des cieux un petit peu plus alambiqués, on va aller vers du métal progressif avec le groupe Queensryche qui a sorti le 1er mars son nouvel album The Verdict. Alors, Queensryche, on les attendait un petit peu au tournant, même si quand même le groupe a repris pas mal de couleurs depuis quelques temps, mais quand même, hein, voilà, il y a encore quelques a priori sur notamment les albums, on va dire, du début des années 2000. On va revenir un petit peu sur tout ça. Alors déjà, quelques mots sur le groupe Queensryche. C'est un groupe qui a été fondé en 1982, qui est originaire de Bellevue, c'est dans l'état de Washington, et qui a été fondé autour du chanteur Geoff Tate, des guitaristes Michael Wilton et Chris DeGarmo, du bassiste Eddie Jackson et du batteur Scott Reckenfield. Un line-up originel dont il ne reste aujourd'hui officiellement que deux membres, donc le guitariste Michael Wilton et puis le bassiste Eddie Jackson. Alors je vous disais, c'est du métal progressif, et d'ailleurs le groupe est considéré comme un des pionniers du genre, si ce n'est le pionnier du genre. Avec plus de 20 millions de disques vendus à travers le monde, Queensryche fait également office de figure emblématique, voire de combo culte de la scène métal progressif. C'est en 1984 qu'ils vont sortir un premier album qui s'appelle The Warning, mais c'est avec Operation Mancrime, concept album désormais mythique paru en 88 et puis ensuite Empire paru en 90 que Queensryche va connaître son apogée créative et commerciale. Alors ensuite, le groupe va pas vraiment faire de vagues, ils vont poursuivre leur carrière durant les années 90-2000. On peut quand même souligner la sortie de quelques albums marquants, je pense notamment à Tribe en 2003, à Operation Mancrime 2 en 2006, voire même à American Soldier en 2009. Et puis en 2012, alors que le groupe va célébrer ses 30 ans d'existence, et bien coup de tonnerre, la femme et la belle-fille de Geoff Tate, qui sont chargées respectivement du management et puis du fan club, vont être limogées, mais dans le dos du chanteur, ce qui va bien sûr provoquer au sein du groupe un climat tellement délétère que Geoff Tate est prié lui aussi de prendre la porte. Alors il va être remplacé par Todd LaTorre, qu'on va découvrir sur l'album Queensryche en 2013, sur lequel on découvre d'ailleurs le très beau potentiel de ce nouveau chanteur qui s'est déjà illustré au sein de Crimson Glory, mais ça va pas faire l'unanimité chez les fans du groupe qui vont lui reprocher finalement de plagier son illustre prédécesseur. Et pourtant, à l'écoute de l'album suivant qui s'appelle Condition Human en 2015, c'est indéniable que l'arrivée de Todd LaTorre a donné un sacré coup de boost au combo qui a vraiment retrouvé de sa superbe, et c'est un constat qui se confirme avec The Verdict, le 15e album studio de Queensryche qui est paru donc il y a 15 jours. C'est un album qui a été produit de nouveau par Chris Thus Harris, et c'est un album qui est à la fois inspiré, puissant, mélodique, qui est raffiné aussi avec des compos heavy progressifs de haute volée, qui pour certaines vont rappeler aux fans les grandes heures du combo, qui sort certainement là son album le plus métal et le plus progressif depuis bien longtemps. Que vous dire de plus, si ce n'est que The Verdict, c'est un ensemble solide, cohérent, qui est mené par le soin, par le talent, c'est ça les deux ingrédients principaux de ce disque. C'est presque un sans faute pour Queensryche qui, malgré les épreuves, voit sa carrière briller de nouveau. On écoute un extrait de The Verdict avec le titre Man's Machine. Voici tout de suite Queensryche sur Back FM.
Down the lake, this is-
très bon métal progressif de Queensryche avec leur nouvel album The Verdict paru le 1er mars. Le titre qu'on vient d'écouter, c'est Man's Machine. Très très bon disque, donc je le rappelle, hein, qui fait de Queensryche de nouveau une des valeurs sûres du métal progressif. On les avait un peu perdus dans les années 2000, même dans les années 90, malgré quelques petites choses. Et peut-être que finalement, l'omniprésence de Geoff Tate pesait sur le groupe. D'ailleurs, Geoff Tate, lui, maintenant, il évolue également avec une formation parallèle à Queensryche. Et les albums qu'il fait sont quand même assez moyens. Et c'est vrai que voilà, c'était finalement peut-être lui l'élément perturbateur, allez savoir. On va écouter maintenant un groupe, c'est un one man band assez étrange, mais j'avais envie de vous le présenter parce que voilà, c'est très très singulier et finalement c'est assez plaisant. C'est un groupe qui s'appelle Pensée Nocturne. Je vous en avais déjà parlé parce qu'ils étaient passés au Hellfest, et donc Pensée Nocturne a sorti début février, le 1er février, un album qui s'appelle Grand Guignol Orchestra, et je voulais pas passer à côté, je voulais absolument vous le présenter. Alors ça fait plusieurs semaines que je l'avais programmé et puis à chaque fois je manque de temps, donc aujourd'hui j'en profite pour vous présenter cet album Grand Guignol Orchestra. Alors avant, je vais vous dire quelques mots sur Pensée Nocturne. C'est une formation parisienne qui existe depuis 2009, qui a été créée sous la forme d'un one-man band qui est mené par Varon. Alors Varon, c'est un clown grotesque et dépravé, à mi-chemin entre Gripsou de ça, de Stephen King, et Twisty de la série American Horror Story, pour vous faire un petit peu une idée. Le style de Pensée Nocturne, c'est du black metal avant-gardiste et grand guignolesque, que son créateur aime qualifier de déglingué black metal de verre en vis. Alors le black metal de Pensée Nocturne, il est renforcé par l'utilisation de nombreux instruments assez rares dans ce domaine, comme par exemple les cuivres, le piano, l'accordéon ou encore le thérémine, ce qui donne à cette musique une espèce d'atmosphère de fanfare cauchemardesque qui jouerait à tue-tête dans un cirque de l'enfer. C'est assez détonnant. En 10 ans d'existence, Pensée Nocturne a sorti pas moins de 6 albums. Le premier, c'était Vacuum en 2009. Il y a eu ensuite Grotesque en 2010, que le label les Acteurs de l'Ombre a réédité en mai dernier. Et puis ensuite, il y a eu Société de la Musique en 2011, Nom d'une Pipe en 2013, À Boire et à Manger en 2016, et puis donc ce fameux Grand Guignol Orchestra qui est paru début février. Et que de chemin parcouru depuis une décennie. D'ailleurs, d'album en album, Varon n'a cessé d'affirmer son style, et il propose avec ce nouvel opus une œuvre assez intemporelle, bah encore une fois unique, hein, qui ressemble à rien d'autre. Et Grand Guignol Orchestra, on peut dire qu'il surpasse une nouvelle fois son prédécesseur, et là, le groupe nous offre un album monumental, où l'avant-garde est poussée à son paroxysme pour donner naissance à ce cirque décadent où se mêlent folie, brutalité, passages rythmés et arythmiques, mélodies et dissonances, sans oublier les vociférations, les cœurs écorchés, les chorales d'ivrognes. On peut dire que Varon est un génie de la composition et de l'interprétation, puisque mis à part la batterie, il a enregistré tous les instruments. C'est aussi un génie de la déstructuration, un génie de la langue française, puisque chaque apostrophe, chaque vers, chaque déclamation se joue des mots et de leur sens, de leur contresens, de leur vérité. Bah maintenant que les plus téméraires d'entre vous franchissent l'entrée de ce terrifiant chapiteau, le spectacle du Grand Guignol Orchestra va commencer tout de suite. Voici un morceau qui s'appelle « Deux balles dans la tête ». Bal écrit B-A-L-S, le bal pour aller danser. Voici « Pensée Nocturne ».
Come on!
deux balles dans la tête avec Pensée Nocturne, un extrait de l'album Grand Guignol Orchestra à l'instant sur Back FM dans Check Me Load. Pensée Nocturne, le cirque infernal mené par le clown déglingué Varon, clown malfaisant qui mène cette fanfare terrible à découvrir si vous aimez les sensations fortes et si vous avez pas peur des œuvres tout à fait singulières. Voilà, c'est tout pour les nouveautés d'aujourd'hui. J'en ai encore plein d'autres en préparation pour la semaine prochaine, mais pour l'heure, il est temps de retrouver la rubrique du jour, et aujourd'hui, ça va être la rubrique 20 ans dans tes dents. Rubrique, créée à l'occasion des 20 ans de l'émission Check Me Load. On s'intéresse à peu près tous les 15 jours à qu'est-ce qu'on écoutait à la même période il y a 20 ans. Du coup, on écoutait quoi en mars 99? Moi, perso, j'écoutais plein de choses, mais j'écoutais notamment Dimmu Borgir avec leur quatrième album Spiritual Black Dimension, qui était tout frais paru puisqu'il est sorti le 1er mars 1999. Alors, Dimmu Borgir, c'est un groupe qui nous vient d'Oslo, qui a été fondé en 93 et qui fait aujourd'hui figure de formation emblématique et pionnière de la scène black metal mélodique, aux côtés notamment d'Emperor. Depuis le départ, c'est un combo qui est mené par le chanteur Shagrass et puis le guitariste Silenos. Et le groupe va vite connaître un vif intérêt au sein de la scène Black Underground, mais c'est sa signature avec Nuclear Blast sur lequel sort en 97 Unthroned Darkness Triumphant, son premier album chanté en anglais, qui va lui ouvrir les portes de l'international et puis lui offrir son premier gros succès commercial. La suite, c'est la sortie 2 ans plus tard de Spiritual Black Dimensions, qui nous intéresse aujourd'hui, qui est coproduit par le suédois Peter Tagrain, et surtout c'est un album qui va marquer le départ du bassiste Nagash, qui va être remplacé par ICS Vortex, qui lui est l'ex-chanteur bassiste de Borknagar. Et l'arrivée de Vortex au sein de Dimmu, ça va apporter tout simplement à la musique du groupe des parties de chant clairs qui vont donner un petit peu d'harmonie dans cet album, qui est probablement une des pièces les plus sombres de la discographie des Norvégiens. Autre point important de ce disque, ce sont les influences thrash et heavy metal de Silenos et Shagrass qui sont de plus en plus marquées, qui sont même d'ailleurs accentuées par la guitare d'Astenu, qui lui va apporter à Spiritual Black Dimension des passages en sweeping qui sont très mélodieux. Alors le sweeping, c'est une technique de guitare qui consiste à jouer un petit peu comme si vous balayiez, c'est-à-dire que on a un mouvement bien précis du médiator, d'abord en aller puis ensuite en retour. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est une technique assez compliquée à maîtriser, mais les très bons guitaristes, ceux qui l'ont vraiment bien en main, ça fait vraiment des merveilles. Et puis enfin, Spiritual Black Dimension, c'est aussi le premier album de Dimmu Borgir où le claviériste Moustis est crédité en tant que membre officiel, alors que jusqu'à présent il n'était crédité qu'en tant que musicien invité, une façon polie de désigner un musicien de session finalement. Ça peut paraître un détail, mais quand on sait l'importance des parties de clavier dans cet album, c'était quand même très très important de le souligner. La suite de l'histoire, on la connaît, Asjur Dimmu Borgir, c'est 10 albums studio, dont plusieurs chefs-d'œuvre, c'est des milliers de disques écoulés à travers le monde, des prestations live éblouissantes. D'ailleurs, le groupe qui a sorti en mai 2018 son dernier album en date, qui s'appelle Aeonian, et qui s'est produit lors du dernier Hellfest, va reprendre la route dès le mois d'avril. Cet été encore, ils vont se produire sur les scènes des festivals les plus prestigieux. Alors, par exemple, ce sera une des têtes d'affiche du Metal Days, qui est très en vogue en ce moment, qui est un festival metal qui se déroule à côté d'un lac entre les montagnes en Slovénie dans un cadre sublime. Mais revenons à l'année 99 avec Spiritual Black Dimensions de Dimmu Borgir. On va se quitter avec le titre Reptile, qui est extrait donc de cet album. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Salut à tous, à bientôt sur Back FM.
Stay the